Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission culturelle, une émission culturelle très littéraire aujourd'hui. HHHH, derrière ce titre de roman qui peut à juste titre susciter l'interrogation, se cache un acronyme, Himmler's Hirn heißt Heydrich, soit en français, le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich, une expression utilisée par les nazis eux-mêmes pour désigner le chef de la Gestapo et protecteur de Bohème-Moravie, Reinhard Heydrich, un des dirigeants nazis les plus redoutables et les plus redoutés du Troisième Reich. C'est à sa figure, mais surtout aux deux parachutistes tchécoslovaques qui l'ont abattu en 1942, que s'est intéressé l'écrivain français Laurent Binet dans son roman paru en 2009 chez Grasset. Un ouvrage qui s'interroge dans le même temps sur la façon d'écrire un roman historique. Ce roman vient d'ailleurs de recevoir le prix Goncourt du premier roman, Rencontre.
Donc, je m'appelle Laurent Binet, j'ai 37 ans, je suis professeur de français, et j'ai fait mon service militaire à l'époque où il existait encore en France. En Slovaquie, j'étais envoyé en Slovaquie pour donner des cours à des soldats slovaques, des élèves officiers dans une école de l'air à Košice. Et par la suite, j'ai partagé mon temps pendant plusieurs années entre Paris et Prague.
De ce séjour en Slovaquie et en République tchèque par la suite est né un roman, HHHH, c'est un petit peu dur à prononcer, je vais devoir le dire de manière un peu scindée comme ça. C'est un roman qui est paru chez Grasset, qui s'intéresse alors à un volet important pour les Tchèques et Slovaques de leur histoire, puisque c'est l'attentat contre le Reich protecteur de Bohème-Moravie, Reinhard Heydrich, assassiné en 1942 par deux parachutistes, Jan Kubisch et Josef Gabčík. Alors, comme je disais, c'est en effet un événement très important à la fois pour les Tchèques et les Slovaques, mais aussi pour l'histoire du Troisième Reich, de la Deuxième Guerre mondiale, qui est peut-être moins connue d'ailleurs des Français. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à cette période déjà et à cet attentat en particulier?
Mon père est prof d'histoire et depuis tout petit, il a pris l'habitude de me raconter des choses sur l'histoire et notamment, il m'avait mentionné cet attentat contre Heydrich sans me donner de détails. Et quand j'étais envoyé en Slovaquie, la première chose que j'ai demandé en arrivant à l'ambassade, au secrétaire de l'attaché de défense, c'était des détails sur cet attentat. Les premiers détails qu'il m'a donnés m'avaient intrigué puisqu'il m'a dit que la mitraillette de l'un des parachutistes s'était enrayée au moment de l'attentat, et puis il m'a dit que les parachutistes ensuite s'étaient réfugiés dans une église, que les Allemands avaient essayé de les noyer, de les enfumer, et donc il m'a donné quelques éléments sur l'assaut au final, le siège dans la crypte de l'église Saint-Cyrille et Méthode. Ça m'a intrigué et puis j'ai commencé à creuser, et de fil en aiguille je me suis rendu compte que c'était une histoire absolument extraordinaire et j'ai eu envie de la raconter. Et c'est vrai aussi que c'est à mon avis le plus grand acte de résistance de toute la Deuxième Guerre mondiale, et il me semble qu'il est assez peu connu en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, à part en Tchéquie et en Slovaquie. C'est un événement qui est pas très très connu, et donc j'avais envie de le faire connaître.
Ce qui est étonnant finalement, qu'il n'ait pas été si connu que ça, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient oublié, finalement Reinhard Heydrich était l'instigateur de la solution finale, on en parle dans les livres. Mais finalement, cet épisode est un peu passé à la trappe dans les bouquins d'histoire, tout simplement, même à l'école.
Oui, alors ça, je pense que c'est parce que justement, les fonctions de Reinhard, de Heydrich étaient très secrètes, en fait. En tant que chef des services secrets, en tant qu'organisateur de la solution finale, il n'était pas connu à ce titre à l'époque. Il était connu comme protecteur de Bohème-Moravie. On savait qu'il avait des responsabilités dans la Gestapo. Mais donc, c'était quand même un personnage très secret. Comme il a été éliminé en 42, après la guerre, on cherchait des responsables, des coupables. C'est pas vers lui qu'on a cherché, mais plutôt vers Eichmann, notamment. Eichmann, qui était en fait l'homme à tout faire de Heydrich. Mais finalement, Eichmann, le subordonné d'Heydrich, est beaucoup plus célèbre encore aujourd'hui que Heydrich. Et ça, je pense que c'est lié au fait que Heydrich a disparu en 42.
Qu'est-ce qui vous a fasciné, justement, chez ces deux parachutistes en particulier, justement, puisque ce sont, en effet, c'est un des plus grands actes de résistance. Mais dans votre roman, vous essayez aussi de reconstituer un peu leurs traits de caractère. Ils sont très différents, tous les deux. Vous essayez de retrouver un petit peu ce qu'ils ont fait quand ils étaient en Angleterre, puisqu'ils sont partis de la Tchécoslovaquie au moment de l'occupation nazie. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez ces deux personnages en particulier?
Oui, c'était d'ailleurs très frustrant, le fait que j'ai beaucoup moins d'informations sur eux que sur Heydrich, mais leur acte était un acte de courage et d'héroïsme invraisemblable, et j'avais envie d'en savoir plus sur eux. Enfin, de ce que j'en ai appris, c'était des jeunes gens très courageux, mais par ailleurs très sympathiques, très humains, très très chaleureux, et enfin qui avaient une vie qui étaient des héros d'une part, qui avaient une vie d'homme tout à fait normal, qui avait des petites amies d'autre part. Et je me suis évidemment, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour eux, je me suis beaucoup attaché à eux, et puis en même temps je suis aujourd'hui plus vieux qu'ils n'étaient quand eux sont morts, et j'ai beaucoup de, ils sont morts alors qu'ils étaient plus jeunes que je le suis aujourd'hui, mais j'éprouve beaucoup de respect, d'admiration pour ces jeunes gens, quoi, qui ont accompli cet acte de façon, avec beaucoup de simplicité, j'ai l'impression.
Et puis vous parlez évidemment aussi de toutes les personnes qui les ont aidés tout autour, finalement toutes ces personnes qui sont tombées un peu dans les oubliettes de l'histoire, les familles qui les accueillent. Comment est-ce que vous avez retracé un petit peu justement leur parcours? C'est un peu un travail d'enquête de Sherlock Holmes, d'historien tout simplement aussi, je suppose, puisque certes c'est un roman, mais vous faites un travail d'historien puisque vous allez chercher dans les archives. Combien de temps, en gros, simplement concrètement, vous avez mis à rassembler tout ce matériel documentaire pour avoir de la matière à partir de laquelle écrire votre roman?
Oui, ça m'a pris des années. Je suis pas un historien et j'ai pas tout à fait un travail aussi rigoureux qu'un historien aurait pu le faire, je suppose, mais j'ai quand même rassemblé une très grosse documentation. La phase de documentation plus la phase de rédaction, ça m'a presque pris 10 ans, dont la moitié en documentation. Donc j'ai rassemblé beaucoup d'ouvrages, et notamment, je voudrais profiter de cette interview pour rendre hommage à Miroslav Ivanov, qui a écrit un document qui a été très précieux pour moi, où il avait recueilli beaucoup de témoignages, de témoins oculaires de toute cette histoire, d'un pompier par exemple qui a été lors du siège des SS, qui a été convoqué par les SS pour noyer les parachutistes, mais aussi des témoignages de concierges des immeubles où les résistants s'étaient caché, ou d'amis des résistants, ou de résistants eux-mêmes, parmi les rares résistants qui n'avaient pas été éliminés. Et donc c'est comme ça que j'ai pu découvrir le réseau de résistants, de familles tout à fait ordinaires, de braves gens qui ont aidé les parachutistes, et dont la figure emblématique est celle qu'ils appelaient la tante Moravtsova, qui était une petite dame d'une cinquantaine d'années, je crois, qui était mariée, qui avait des enfants, et qui faisait son marché dans la journée, et puis le soir, qui allait porter à manger aux parachutistes dans la crypte, et qui a payé ses activités de sa vie, puisque donc elle a croqué une capsule de cyanure quand la Gestapo est venue l'arrêter.
Alors pour ce roman, vous avez choisi une forme assez originale, d'une part au niveau temporel, puisque vous avez à peu près trois niveaux de lecture temporelle. Vous avez à la fois la Deuxième Guerre mondiale, vous avez les années 90-2000, on va dire en gros, quand vous faites vos recherches, quand vous êtes en Slovaquie, etc. Et vous avez un troisième axe temporel qui est celui de l'immédiateté, c'est celui le moment où vous écrivez. Et en fait, finalement, d'une certaine façon, le récit ou le roman que vous écrivez s'écrit sous nos yeux. Et tout au long de votre roman, vous dites vous défier justement du romanesque, puisque vous écrivez sur l'histoire. Alors déjà, simplement, pourquoi est-ce que vous vous défiez du romanesque? Sachant qu'en plus, vous êtes quand même professeur de littérature. C'est un petit paradoxe quand même.
Oui, mais parce que j'avais l'impression que si je voulais vraiment rendre hommage à ces hommes, ces femmes qui ont résisté, il fallait que j'essaie de retracer fidèlement ce qu'ils avaient fait. Et si je commençais à combler les trous en ayant recours à des scènes de fiction ou à inventer tel ou tel détail que je connaissais pas, j'avais l'impression de plus tout à fait parler de personnages de fiction qui leur ressemblaient, mais c'était plus tout à fait eux, et donc j'avais l'impression de trahir l'histoire avec un grand H et leur histoire personnelle. Donc c'est pour ça que je voulais rendre compte de cet état d'esprit et faire comprendre au lecteur que ce que je lui racontais, c'était pas simplement une histoire extraordinaire avec un bon scénario, mais que c'était avant tout une histoire vraie, et que les protagonistes avaient réellement existé, et que ce dont je parlais, ça leur était réellement advenu. Donc ça, c'était très important pour moi, et j'ai pensé que le moyen de faire en sorte que le lecteur ne perde pas ça de vue, c'était justement d'expliquer quand j'étais confronté à des doutes, des hésitations quant à la véracité de tel ou tel épisode, et donc de rendre compte de ces doutes, de ces hésitations. Et donc c'est pour ça que j'ai eu recours à ce dispositif qui me permettait de me démarquer d'un roman ordinaire, sachant que à l'arrivée, c'est vrai que je considère avoir utilisé des procédés romanesques pour raconter cette histoire le mieux possible, de façon à ce qu'elle soit la plus intéressante possible pour les lecteurs. Mais je considère que mon livre n'est pas un roman en ce sens où il recourt pas à ce qui est, il n'a pas recours à ce qui normalement fonde la spécificité du roman, qui est l'invention, le recours à la fiction.
Pourtant, c'est quand même marqué roman sur la couverture et l'intitulé de ses romans. Pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, essai de roman?
Alors oui, vous avez raison, il y a marqué roman, et ça c'est une convention éditoriale qui fait, parce que justement en France, et je crois pas simplement en France, on ne reconnaît plus que deux catégories, c'est essai et roman. Et mon ouvrage n'était pas un essai, c'est un récit, ça raconte une histoire, simplement. Voilà. Donc, la catégorie histoire vraie n'est pas reconnue par les bacs, par les libraires, et n'a pas de case dans les librairies. Donc voilà.
Pour terminer, j'aimerais revenir sur votre nom qui a été cité, alors dans une polémique un peu plus vaste sur, mais qui est intéressante parce que justement c'est de ça que traite votre roman. Il y a quelque temps, donc un auteur français également, Yannick Enel, a sorti un livre sur Jan Karski, qui était l'envoyé, l'émissaire des Juifs polonais en Amérique pour dire aux Américains ce qui se passait pendant la guerre, que les Juifs étaient exterminés. Et le réalisateur Claude Lanzmann a accusé Yannick Enel de trahir la mémoire de Karski, et de deux, d'avoir plagié Shoah, et de ne pas avoir fait œuvre romanesque, en tout cas seulement pour un tiers de son livre, en tout cas, et ne reconnaît pas même cette partie romancée comme étant, disons, fidèle à l'histoire. Au contraire, Claude Lanzmann a encensé votre livre comme étant justement l'inverse de ce qu'a fait Yannick Enel. Vous vous êtes retrouvé, je suppose, un peu involontairement dans cette polémique. Comment est-ce que vous vous situez un petit peu par rapport à elle ?
Bon, moi je pense que... Le projet d'Yannick Enel avait le mérite d'être original, justement, de ne pas se contenter d'une forme romanesque habituelle où on mélange allègrement histoire et fiction. Lui, il a eu le mérite au moins de séparer les chapitres proprement historiques et le chapitre proprement fictif. Mais alors du coup, c'est vrai que le chapitre proprement dit fictif, a peut-être un intérêt littéraire ou philosophique ou métaphysique, j'en sais rien. Mais disons, si moi je m'intéresse à la figure de Jan Karski, et Yannick Enel m'y a fait m'y intéresser, je m'y intéresse d'un point de vue historique. Et la partie romanesque, la dernière partie du livre, à mon sens, a un intérêt historique assez faible, en fait. Et d'une manière plus générale, de toute façon, je suis plutôt contre le recours au monologue intérieur, qui est ce procédé où le romancier s'arroge le droit de penser à la place de quelqu'un. Donc le problème étant quand cette personne a vraiment existé. Et c'est vrai que bon, y a une historienne française qui s'est indignée aussi du livre d'Anel et qui a dit une formule qui est sévère mais qui est peut-être juste, qui disait on entre dans les morts comme dans un moulin. Et c'est vrai que moi je me suis interdit, mais j'ai eu envie, j'ai dû résister à cette tentation, mais je me suis interdit de recourir au monologue intérieur. Et c'est vrai que j'avais envie d'essayer de penser à la place de Gabchik, à la place de Kubisch, mais je saurais jamais ce qu'ils pensaient, et j'ai pas voulu faire croire que si vous voulez, j'ai pas voulu penser à leur place.
C'était l'écrivain français Laurent Binet. Précisons encore que l'attentat contre Heydrich donnera lieu à une répression sanglante en Tchécoslovaquie, dont le tragique symbole est l'anéantissement total du village de Lidice à côté de Prague, 2 ans avant Oradour-sur-Glane en France. À noter encore pour finir que des éditeurs tchèques et slovaques ont déjà fait connaître leur désir de publier HHHH dans les deux langues, et ce n'est que justice. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver évidemment cette interview sur notre site internet www.radio.cz. À bientôt. Ahoy.